Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Ces 50 ellipses, ces 600 000 mètres cubes de béton ne peuvent échapper au regard des automobilistes qui empruntent chaque jour le boulevard périphérique. Son architecte, Roger Talibert, le surnommait le chaudron à cause de sa forme ovale et refermée sur elle-même. Prouesse technique dans un milieu urbain si dense. Une forme qui a pu intimider certaines équipes venues se mesurer au Paris Saint-Germain. Auparavant, stade Vélodrome. C'est ce que l'on voit sur ces images. Depuis 1897, le Parc des Princes a subi de très nombreuses transformations au cours de son histoire. Sa dernière grande transformation date des années 70. Il la doit d'ailleurs à la construction du boulevard périphérique qui l'enjambe à l'orée de la porte de Saint-Cloud. À l'époque, une toute jeune équipe y prend ses quartiers, le Paris Saint-Germain. Entre le club, l'enceinte et ses supporters, la relation est passionnelle. Mais depuis l'arrivée d'un fonds d'investissement qatari à l'aube des années 2010, l'histoire a pris une autre ampleur et le locataire, le Paris Saint-Germain, se sent désormais un peu à l'étroit dans son écrin de béton. Alors, quelle solution? Racheter l'enceinte? Le propriétaire, la mairie de Paris, ne souhaite pas vendre. Déménager pour plus grand, mais où et à quel prix? Ce sont désormais les options qui s'offrent au club de la capitale et dont nous discutons ce soir avec mes invités. Jean-Michel Fourgousse, président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et maire d'Elancourt. Virgile Caillet, économiste du sport. Et François Bessène, supporter du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, quelle vie sans le parc Île-de-France Politique? C'est parti. Bonsoir à tous les trois. Merci beaucoup d'être sur le plateau d'Île-de-France Politique. On va revenir très largement sur l'avenir du Paris Saint-Germain au Parc des Princes ou sans le Parc des Princes. Tout d'abord, je voudrais quand même une petite réaction au départ de Kylian Mbappé, François Bessène. On l'a appris ce jeudi soir.
On s'y attendait depuis un moment, maintenant c'est officiel. J'ai envie de dire, ça fait tellement longtemps qu'on en entend parler, c'est la fin d'un feuilleton, mais le club va continuer à exister. En fait, on a eu des très grands joueurs par le passé, on en aura à l'avenir.
Avec le même entrain?
Bah évidemment, avec le même entrain. C'est un très grand joueur, il va faire le bonheur d'un autre club, on verra lequel. Mais le PSG continuera, il y aura des très grandes stars qui arriveront et ça restera notre club. Les joueurs y passent, mais en tout cas les supporters vont rester.
Le Paris Saint-Germain qui gagnait beaucoup d'argent aussi, peut-être grâce à Kylian Mbappé. Est-ce que ça va être la même chose sans Kylian Mbappé?
Le Paris Saint-Germain qui gagnait beaucoup d'argent, mais qui en dépensait beaucoup aussi. Donc ça va ouvrir également des perspectives. C'est un nouveau modèle économique, probablement qu'un nouveau modèle tout court, une nouvelle histoire à raconter. Et effectivement, des potentialités économiques. Et là, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir réécrire l'histoire maintenant. Bon, un nouveau projet qui s'ouvre.
Un départ de Kylian Mbappé, vous continuerez à suivre le Paris Saint-Germain, Jean-Michel Fourgousse?
Bien sûr, mais le PSG, ils ont une culture, ils ont le talent de savoir trouver des talents, comme on dit. On n'est pas très inquiet. Et puis ça va accompagner des talents et des réussites. Bon, c'est quand même un des grands clubs européens aujourd'hui, on n'est pas très inquiet.
Tout a commencé avec une brouille avec la mairie de Paris, sur laquelle on va revenir. Pour vous, ça représente quoi le Parc des Princes?
Alors, je dirais que le Parc des Princes, c'est quand même le berceau du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, ce berceau était dans le blason, alors il signifiait autre chose à l'origine, mais c'est effectivement le cœur, l'âme du PSG dans sa version historique. Mm-hmm. Mais maintenant, peut-être qu'effectivement, c'est un stade qui date des années 70, vous l'avez dit très justement dans les propos introductifs. Il est peut-être plus tout à fait adapté à ce qu'on attend d'un outil de ce type, d'un stade moderne. La question mérite d'être posée. Est-ce que c'est le stade d'avenir pour le Paris Saint-Germain ou pas?
Vous avez la même lecture? Vous avez le Parc des Princes au cœur?
Évidemment que j'ai le Parc des Princes au cœur. J'ai tous mes souvenirs d'enfance au Parc des Princes. Et je pense qu'énormément de gens ont d'ailleurs des souvenirs de l'équipe de France au Parc des Princes. Parce que le Parc des Princes, c'est un monument du monde sportif français et pas uniquement du Paris Saint-Germain. Après, voilà, le débat mérite d'être posé. Évidemment, quel club on projette dans les 20, 30, 50 prochaines années? En tant que supporter du PSG, moi, je reste persuadé que sa place est au Parc des Princes et que c'est un outil qui peut largement être amélioré.
Bon, si on se pose la question de ce potentiel déménagement du Paris Saint-Germain, c'est que depuis plusieurs mois, le club a entamé des négociations avec la mairie de Paris. Il semblerait qu'on ait atteint un point de blocage. Bonsoir Nicolas Dumas, tu es en plateau avec nous pour le Focus d'Île-de-France Politique. Pourquoi est-ce que la ville et le club ne se parlent plus?
Ils ne se parlent plus parce que le PSG souhaite acheter le Parc des Princes alors que la ville s'y refuse. Elle l'a à nouveau dit la semaine dernière par un vote lors du Conseil de Paris. Les discussions ont cessé en décembre 2022. Pour rappel, c'est en pleine Coupe du Monde au Qatar que Nasser Al-Khelaïfi se montre virulent envers la ville de Paris. Ils font pression pour que nous partions. La maire force le PSG à quitter sa maison, affirma-t-il. Depuis janvier 2023, Anne Hidalgo répond aux Parisiens que le Parc des Princes n'est pas à vendre. Il ne sera pas vendu. C'est une position ferme et définitive. Le PSG investira dans le parc uniquement s'il en devient propriétaire, a-t-il dit à plusieurs reprises. Il s'agit d'un investissement estimé autour de 500 millions d'euros pour moderniser l'enceinte parisienne. Et les derniers propos de Nasser Al-Khelaïfi la semaine dernière, où il a dit qu'il voulait quitter le Parc des Princes, tout simplement.
Merci beaucoup Nicolas Dumas. Bon, on sait comment ça se passe généralement les négociations, Virgile Caillet. Parfois on claque la porte en espérant un peu être rattrapé. Est-ce que c'est du bluff tout ça?
Alors il y a forcément quand même pas mal d'intox, hein, un jeu de poker menteur entre les deux parties. Néanmoins, ce qui interpelle, c'est quand même la position assez radicale du PSG, de Nasser Al-Khelaïfi. On peut s'étonner quand même de sa position. Ça semble vouloir dire qu'il y avait quand même eu des discussions très en amont. On parle de quelques mois de discussion. Je pense que c'est plusieurs années, en vérité. Donc, on peut s'étonner. Peut-être qu'il y a eu des promesses. Peut-être qu'il y a eu, si ce n'est des promesses, quelques engagements. En tout cas, une porte ouverte. Et qu'aujourd'hui, effectivement, on arrive au bout de ce poker menteur. Et que eh bien, le PSG dit stop. On arrête. On siffle la fin de la récré. Puisque vous nous menez en bateau, on va aller sur un autre projet. On peut évidemment penser que c'est une façon de pousser un peu le curseur et d'appeler les parties à rediscuter. Mais là, on est quand même vraiment sur des positions très, très marquées. Je ne sais pas si ça pourrait s'arranger avant la fin du mandat d'Anne Hidalgo. Je doute, en tout cas, que les parties se rapprochent d'ici 2027.
Donc, qu'avez-vous pensé de la position de la mairie de Paris, vous qui êtes un élu du territoire, Jean-Michel Fourgous?
Écoutez, c'est difficile de commenter cette partie-là. Je pense que la presse s'est pas mal exprimée là-dessus, d'ailleurs. Bon. Mais voilà, il faut comprendre que le PSG, ce que je comprends, moi, c'est que, bon, ils sont dans un monde, entre guillemets, planétaire, une concurrence planétaire. Ils veulent, quelque part, le plus beau stade du monde. Mm-hmm. Bon. Ils en ont les moyens. Ils ont quand même des équipes aussi très performantes. Donc voilà, faut bien se remettre ça. Le Parc des Princes, c'est pas simple. Il y a un problème de parking. Ils veulent passer de 48 000 à 60 000, c'est-à-dire augmenter de 25%, bien sûr. Voilà, il y a des conditions. Et puis aujourd'hui, bon, c'est vrai que Paris, en matière d'encombrement, ils sont quand même assez performants. Il faut leur reconnaître ça à ce niveau-là. Donc voilà, aujourd'hui, et en plus, je pense que le PSG veut un peu avoir... Il a un centre d'entraînement à Poissy, donc dans le même département, sur la même route que nous, quasiment. Donc, bon. Donc effectivement, ils regardent un projet qui dépasse même le football, qui s'accompagne, en tout cas, d'un environnement sportif. Par exemple, il y a un bassin. Nous ils visent les 600 hectares de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais surtout 50 hectares. Mmh. Et vous avez un lac de 150 hectares qui est très beau, effectivement. Ils ont un projet vraiment de faire quelque chose d'assez extraordinaire, même sur le plan écologique. On les voit étudier vraiment toutes les faisabilités et puis faire vraiment un ensemble aussi avec une partie de loisirs, avec une partie d'accueil. Donc c'est un projet qui dépasse bien sûr largement. Ce n'est pas le même projet que le Parc des Princes.
Quel est vraiment l'intérêt du Paris Saint-Germain à racheter le parc, selon vous, hein, vous qui suivez le Paris Saint-Germain depuis longtemps? C'est qu'une histoire de place?
Il y a plusieurs... Non, déjà, il y a une question d'argent. Il faut comprendre que le Paris Saint-Germain a investi beaucoup d'argent dans la dernière rénovation avant l'Euro 2016. C'est le PSG qui a payé, mais le propriétaire reste la mairie de Paris. Si vraiment le PSG souhaite faire plus de place, qui est le cas pour augmenter ses revenus, parce que c'est vrai que par exemple le match d'hier soir, évidemment c'était guichet fermé, les places les moins chères devaient être à 150€ à la revente, donc évidemment le Paris Saint-Germain...
Ça ferait baisser le niveau des places, le prix des places, pardon.
Alors ça c'est une vraie question économique à poser, de voir objectivement demain, est-ce que le prix moyen d'une place, si on passe d'un stade de 47 000 à 60 000, est-ce qu'on le baisse ou est-ce qu'au contraire on le maintient et on l'augmente, ce qui est leur intérêt. Mais la problématique, c'est que le PSG, s'il doit rester au Parc des Princes, ça va lui coûter beaucoup d'argent. Les estimations qui étaient données tout à l'heure, c'est à peu près 500 millions. Le PSG veut se dire qu'on peut mettre 500 millions, mais il faut être propriétaire ou à minima, il faut plus que des garanties.
13 000 places, ça fait baisser le prix des billets ou pas ?
Alors, au-delà des places, il y a quand même tout l'aménagement du stade. C'est un stade qui date des années 70. Alors, même s'il a été parfaitement réaménagé, on est à plus de 80 millions d'euros de travaux de rénovation et de
depuis
réaménagement. Et notamment dans la perspective de l'Euro 2016. C'est surtout tout l'aménagement autour des places à prestations, hein, les places d'hospitalité, de VIP. On a coutume de dire que 20% des places d'un stade doivent générer 80% de ses revenus. Aujourd'hui, au Parc des Princes, il y a à peine 5000 places VIP. C'est le plus petit taux en Europe. Et comme vous le disiez très justement, on est dans une économie mondiale, une concurrence mondiale. Et il faut donc jouer avec les mêmes indicateurs, les mêmes critères que les autres clubs européens et j'oserais même dire les mêmes franchises sportives mondiales. Donc là, aujourd'hui, le Paris Saint-Germain a un outil qui n'est plus adapté à ses ambitions économique. C'est pas que la taille des places, c'est aussi l'aménagement, c'est aussi l'environnement, hein, ce qu'on appelle l'expérience spectateur. Donc c'est tout ça qu'il faut complètement revoir. Et là-dessus, je suis complètement d'accord. Un locataire, il a déjà fait l'isolation, il va pas refaire la toiture s'il est pas propriétaire. Ça tient pas debout. Donc là, il y a un vrai sujet. Mais encore une fois, je m'étonne que le Paris Saint-Germain ait accepté de faire ses travaux et soit allé aussi loin dans la discussion sans avoir eu au préalable quelques assurances de la ville de Paris sur le fait que peut-être il pourrait acheter le parc un jour.
Et là, elle a raison, la ville de Paris, de vouloir rester propriétaire.
Qu'est-ce qui peut la pousser
à vouloir rester propriétaire ?
Non, je mesure pas. Je pense que ça fait partie du patrimoine parisien, voire français d'ailleurs.
C'est
le
idéologique
Parc des
aussi peut-être.
Probablement que c'est aussi politique, évidemment. Donc ça appartient à la ville de Paris. En revanche, il faut que les choses soient claires. Désormais, c'est clair, elle ne vendra pas. Donc la position du Paris Saint-Germain est ferme. Ils n'accepteront pas de mettre des travaux de 500 millions dans un outil qui leur appartient pas.
Mm-hmm. À la fin de l'année dernière, l'américain Arcos Partners est devenu actionnaire, donc actionnaire minoritaire hein, du Paris Saint-Germain. C'est 12,5% des parts. Est-ce que l'arrivée de ce partenaire a changé quelque chose dans les projets du PSG ?
Ah bah c'est une évidence qu'un fonds d'investissement spécialisé dans les sujets immobiliers ne va pas attendre 2 ans, 3 ans de flou pour avoir des plans de développement économique. Un fonds d'investissement, il faut quand même comprendre, son objectif, c'est de générer de l'argent. C'est sa mission. Hein. Et sur un échelon de temps qui est plus ou moins long. Quand on est sur l'infrastructure, on est peut-être plutôt sur du 10 à 15 ans. Mais ils ne vont pas attendre 3 ans, 5 ans avant de voir réellement s'ils peuvent faire un projet. Parce que là, on parle peut-être du nouveau stade. Mais il faut imaginer que le PSG n'y mettra pas les pieds avant minimum 8-9 ans. Entre trouver le terrain, entre les autorisations de travaux, les travaux, l'arrêt des travaux, parce qu'on sait très bien comment ça se passe en France, la reprise des travaux. Mais il faut regarder ce qui s'est passé à Lyon, à Lille, tous ces stades ont pris 4-5 ans de retard minimum.
Mmh. Donc, on va évoquer la question lyonnaise.
Comme Arthos, évidemment. Il n'est pas prêt à attendre aussi longtemps.
Mmh. C'est au moment de l'arrêt des négociations hein, que Valérie Pécresse a décidé de rencontrer le président du club, Nasser El Khelaifi. C'était en fin de semaine dernière. Et la présidente de la région, elle a ensuite écrit au maire des grandes villes franciliennes dans une boucle WhatsApp. Et on le voit, elle leur dit à ses maires, je suis saisie par le président du club pour expertiser d'autres sites en Île-de-France. Pas question de faire ce repérage sans un avis favorable des élus des territoires. Vous étiez dans cette boucle, Jean-Michel Fourgous ?
Ben, moi, j'étais déjà un peu avant, je dirais, dans cette boucle, puisque le PSG avait déjà identifié. Bon, vous savez, nous, on a eu le problème des Jeux Olympiques. Tout le monde se battait un peu pour avoir les JO. Alors, on en a eu un site, ensuite un deuxième, un troisième, un quatrième. Oui, on a 4 sites maintenant. Bon. Alors, donc, on commence à avoir l'habitude, déjà, ces événements un peu planétaires, quand même. Hein. Bon, ça demande un peu des conditions de préparation. Même le code de l'urbanisme s'est adapté. Enfin, on a on a fait déjà une adaptation. Donc, faut voir que c'est prêt. On n'a pas de problème. Donc, sur la longévité, bien sûr, vous avez raison. On sait qu'on est en France et la complexité administrative, croyez-moi, on c'est dur. Mais on a déjà réglé une partie. Et nous, on a une culture entrepreneuriale très forte. C'est pour ça que on est dans Paris-Saclay. On a souvent, même quelquefois, des exceptions du gouvernement parce que ils veulent maintenir ce côté. C'est comme les 8 zones mondiales de l'innovation. Elles sont là. Donc, on a quand même une activation, on l'a vu pour les JO, par exemple, pour être, on est au point, pour les 4 sites sont au point, voyez. Donc je suis, mais vous avez raison d'évoquer ça, parce que ici, dans ce pays, c'est un peu inquiétant.
Mais pour vous, finalement, ce que la manœuvre de Valérie Pécresse, c'était pas un peu couper l'herbe sous le pied de la mairie de Paris, c'était pas un peu dire, bon bah, moi je prends de la hauteur et puis je peux régler le problème?
Ouais, vous savez, je souhaite rester neutre dans cette partie-là.
c'est trop facile.
C'est pas un peu facile, oui, mais c'est un peu chaud. Alors, nous, vous savez, nous, on est prêts, voilà, ils le savent, on a travaillé quand même déjà.
Je crois qu'il faut bien déconnecter les jeux politiques et les enjeux économiques du Paris Saint-Germain. Le PSG doit générer plus de revenus s'il veut continuer à jouer dans la cour des grands, figurer dans les 3-5 meilleurs clubs européens. Aujourd'hui, il est quasiment au maximum de ce qu'il sait faire, que ce soit sur les revenus marketing, que ce soit sur le fameux match day, les recettes jour de match, où on atteint des sommets. On sait qu'en France, on a un déficit sur les droits télé, et puis ensuite, les produits dérivés, le Paris Saint-Germain explose tous les compteurs en France et se situe même dans les 3 meilleurs clubs européens en nombre de ventes de maillot. Donc aujourd'hui, leur seule marge de manœuvre, ça va être effectivement ces fameuses recettes jour de match, à la fois sur la billetterie, à la fois sur les hospitalités, à la fois sur toute la consommation autour du jour de match. Donc en fait, pour eux, c'est un enjeu vital si on veut continuer à avoir en France un club qui joue les premiers rôles. Et après, effectivement, viennent se greffer des jeux politiques. J'oserais dire, sans porter aucun jugement, que malheureusement, la situation de la ville de Paris, elle est dans une situation perdante-perdante. Soit elle vend le Parc des Princes et ça lui sera reproché, soit elle ne le vend pas et lui sera reproché le départ du PSG. Donc, compliqué.
En tout cas, hier soir, durant le match, les supporters, ils étaient assez remontés. On va peut-être voir ces images. Il y avait une nouvelle banderole qui avait été affichée dans les tribunes pendant le match du Paris Saint-Germain contre la Real Sociedad. Ils ont encore reproché à Anne Hidalgo cette absence de volonté de vendre. On le disait, donc Hidalgo dégage, plie bagage, voilà. Et finalement, il en a été questions dans l'after foot sur RMC. On va en écouter un extrait. Justement, ils appellent à décorréler un peu de la politique.
Je crois que personne n'a envie que le PSG aille jouer à 40 km en région parisienne au milieu d'un champ. Il n'y a pas de transport pour y aller pour l'instant. Le Grand Paris, ce n'est pas encore d'actualité. Il n'y a pas de transport pour aller jouer je ne sais où dans le 77 ou dans le 78. Donc la solution, elle est ici. Donc le dialogue doit être renoué et c'est pas en disant il y a notre président et la raison et la maire de Paris elle a tort que ça changera quoi que ce soit.
Disons les supporters ils ont pas l'air très prêts à venir dans le 78, c'est ce qu'on entendait à l'instant.
Oui, enfin c'est complexe parce que si vous le mettez dans l'Ouest, enfin dans l'Ouest, c'est quand même assez proche. Hein. Je vous rappelle, c'est 20 minutes. Hein. Moi, j'ai une habitation aussi à côté du Parc des Princes. Le matin, je mets 20 minutes pour aller à Saint-Quentin-en-Yvelines. Bon, bref, quand je dors là parce que j'ai deux habitations. Mais donc voilà. Mais et en plus, je vous rappelle que vous avez le Benfica, le club de Liverpool, le Bayern de Munich, qui sont en dehors, en périphérie ou en dehors, bien sûr. Il faut pas être trop loin, faut pas être à ça non plus, à 50 km. Bon, donc c'est le cas. Il y a des transports, il y a des trains, il y a une des plus grosses gares des Yvelines qui est sur 50 ans d'Yvelines. Il y a la ligne 18, on l'a dit, qui est une. Et puis vous avez une autoroute sans feu rouge quand vous partez du périphérique. Bon, et vous arrivez vraiment, vous posez votre voiture devant le stade, le projet de stade. Bon, donc voilà, il faut bien intégrer tout, le monde change, et puis attention, dans 5-8 temps, on ne sait plus combien de temps ça va durer cette construction, mais vous aurez les voitures autonomes, mes chers amis. Et nous, on a une autoroute qui est tout droit. C'est idéal. On sera dans les premiers à être testés. Alors, je ne veux pas survendre non plus ce projet.
Dans un futur, plutôt lointain.
Bah, il faut, vous le disiez tout à l'heure, il faut 5, 6, 7, 8 ans, selon la rapidité et la maîtrise que vous avez, bien sûr, des travaux avec l'État.
François Bessène, vous iriez-vous à Montigny-le-Bretonneux, par exemple?
Alors, je vais répondre de deux façons. La première, et je vais reprendre ce que disait M. Cahill, l'enjeu du Paris Saint-Germain, c'est d'augmenter les revenus d'hospitalité. j'invite à se poser la question, est-ce que les loges seront remplies si on est aussi loin ? Parce que je veux juste faire un petit rappel. Le Paris Saint-Germain existait avant l'arrivée de QSI. Le Parc des Princes n'était jamais plein.
De
l'investisseur qatari. Le Parc des Princes n'était jamais plein. Je comprends qu'on me dise qu'il faut augmenter les revenus. Très bien. Je veux juste poser la question, pourquoi ? Ben pourquoi ? C'est parce qu'aujourd'hui, les déficits, le Paris Saint-Germain a des gros déficits parce qu'il paye beaucoup trop sa masse salariale. Mais il paye sa masse salariale pour que les gens viennent au stade. Donc, à date, on surpaye. Parce qu'à ces niveaux-là, ça s'appelle surpayer quand on fait des déficits. Ils surpayent les artistes pour remplir le stade. Neymar est parti, Messi est parti, ça fait moins de touristes dans le stade. Quand bien même l'arrivée de Kang In-Lee, il y a une communauté coréenne qui vient voir les matchs. Demain, on va perdre Kylian Mbappé, c'est désormais officiel. Ils vont réussir à continuer à remplir autant le Parc des Princes ou alors ils vont devoir payer encore plus ?
C'est la première question que je posais
à moi, c'est une vraie question.
Non, je pense qu'on peut répondre par la positive. Il y aura évidemment des freins de déplacement, etc. Mais il y a aussi un phénomène générationnel. C'est-à-dire que les gens qui sont nés au PSG, au Parc des Princes, passeront la main à de nouveaux supporters qui se déplaceront. C'est vrai, ça a été dit, beaucoup de nouveaux stades qui sont construits sont en dehors des villes. Après, il faut aussi prendre dans l'équation économique, pour la ville de Paris, je pense, l'impact économique considérable que génère le PSG au Parc des Princes. C'est plus de 3500 personnes qui travaillent un jour de match. Sur les jours de match, c'est près de 200 millions d'euros de retombées économiques pour l'Île-de-France. Donc il y a un enjeu aussi pour toute cette population d'acteurs économiques résidents.
Parmi les autres endroits qui ont été évoqués, le maire d'Aulnay-sous-Bois a proposé aussi l'ancienne friche de PSA. Hein, c'est entre la future ligne 16, les autoroutes A1, A3, A86. Donc ça, c'est comme...
Là, on est dans un concept de PSG Land. Hein. Comme on a eu Disneyland...
Mais comme à Montigny-le-Bretonneux.
C'est un peu le même principe. Donc effectivement, il va falloir fluidifier et simplifier l'accès pour les supporters. Oui, il y aura probablement des freins culturels, des freins psychologiques, mais globalement, ça risque de se tasser dans la durée. La vraie question, c'est est-ce que c'est intéressant là, tout de suite, pour le Paris Saint-Germain de quitter le Parc des Princes et est-ce que toutes ces questions, toute cette équation peut amener la ville de Paris à changer son fusil d'épaule. Je crains que les positions soient bloquées jusqu'en 2027, aujourd'hui, avec les deux parties prenantes.
On le disait tout à l'heure, parmi les grands clubs européens, de très nombreux sont propriétaires de leur stade. Alors c'est surtout le cas en Angleterre, en Allemagne notamment. Il y a l'Espagne qui prend aussi la même direction, l'Italie un tout petit peu moins et la France beaucoup moins. En France, c'est l'OL qui l'a fait. On va d'ailleurs évoquer tout de suite. Pourquoi c'est moins le cas en France ? Est-ce qu'on le sait ?
Déjà, il faut se rendre compte que le sport français est quand même très alimenté par de l'argent public. Et le modèle économique, le football français, les stades pleins, c'est une rareté. En Allemagne, la deuxième division fait des stades pleins à des moyennes à 25-30 000 places. En France, la deuxième division, je pense qu'on n'excède pas 10 000. En France, ce serait même très intéressant de regarder même la première division. Et encore, on reparle du Paris Saint-Germain. En championnat, le stade, cette année, n'est pas plein. Donc, on peut...
Quasi plein. Oui, on est à 97% de...
Très bien. On passe à 60 000 places. Le taux, c'est combien ? Pour un CAPEX, c'est à 500 millions à amortir.
Ça dépend, en fait, le prix des places. Ça dépend la grille de tarification. Si ça
c'est
permet d'accueillir plus de populaires... Là, effectivement,
parfois, il peut y avoir des questions de désintérêt, des questions de c'est trop cher, mais si on baisse le prix pour remplir plus et qu'on arrive en fait à la même billetterie, je veux bien qu'on aura plus d'hospitalité, bien entendu. C'est ce qui vous génère 80% des revenus. Mais... À un moment, il va falloir aussi se poser la question. Le PSG, c'est le club de l'Île-de-France. Il l'a toujours été. Les gens qui partent de Paris pourraient très bien aller à Saint-Quentin. C'est plutôt bien desservi. Mais à partir du moment où le PSG est le club de l'Île-de-France et on voit les difficultés, alors le Grand Paris devrait améliorer les choses, de bouger d'un département, de la petite couronne ou de la grande couronne vers un autre, on va se couper également de tous ces gens. Alors, il y aurait la voiture. Quand on voit les problématiques aujourd'hui pour avoir une voiture, que ce soit à Paris ou en Île-de-France, c'est aussi une autre question à se poser.
On va simplement s'intéresser à la question lyonnaise. On va reparler de tout cela, évidemment. L'Olympique lyonnais qui a donc inauguré son nouveau stade, le Groupama Stadium, c'était en 2016. Comment ont réagi les supporters ? Où en est le club financièrement ? Celui qui en parle encore le mieux, c'est Hugo Française. Et il est chef du bureau de BFM Lyon.
Le projet du Groupama Stadium aura été pour le moins contrarié. Tout commence en 2004. Jean-Michel Aulas, président historique de l'OL, fait part de son envie de quitter le stade de Gerland, dont l'OL est locataire, devenu trop exigu. OL Land se choisit en 2007 la commune de Décines, à 30 minutes du centre-ville de Lyon, pour accueillir le futur grand stade de l'OL. Et c'est là que les ennuis commencent. Une commission d'enquête contre la révision du plan local d'urbanisme, une enquête publique très défavorable au projet, mais surtout la mobilisation des habitants incarnée par un homme, Philippe Laya, irréductible paysan dessinois, refusant de céder ses terres pour le grand stade. Une opposition allant jusqu'à une violente agression où l'agriculteur, frappé chez lui par deux individus, se fait extorquer 1000 euros et son dossier de procédure contre le grand stade. 6 ans de combat juridique donc avant la pose de la première pierre en juillet 2013 et l'inauguration du stade 2 ans et demi plus tard. Reste que pour les supporters, ce stade, en dehors de Lyon, qui n'est plus accessible en métro, n'a plus la même saveur que Gerland. L'âme du club perdu ira même jusqu'à dire l'ancien capitaine de l'OL, Maxime Gonalon, qui déplore, après avoir quitté le club, un changement de vision où, je cite, « le business a pris le pas sur le sportif ».
Ça a l'air très compliqué quand même de changer de club. Vous disiez, beaucoup de clubs, de grands clubs sont propriétaires de leur stade, de leur enceinte sportive. Ça a l'air quand même très compliqué, Jean-Michel Fourgous, non ?
Mais regardez, nous, vous savez, on est dans l'innovation, hein, beaucoup, 50 ans d'hiver. Bon, nous, on fait des expériences pour démultiplier l'effet spectateur. Avec des polytechniciens d'ailleurs, bon, etc. Dans le cadre, bien sûr, du vélodrome national, et qui normalement serait applicable, bien sûr, à d'autres sports. Donc, vous savez, il faut changer, il faut bouger. De toute façon, ce pays doit bouger. Il a un problème culturel, ce pays. Hein. Vous le savez, les entrepreneurs, ils vous le disent tous les jours. Hein. On en a un paquet, nous, les entrepreneurs. Mais bon, il y a une technique, il y a aussi une expérience. On le sait que construire, c'est plus difficile que de démolir. On le sait. Mais bon, nous en tout cas, pour l'instant, les premiers tests qu'on a faits, les premières études, parce qu'on a fait des études, quand même, hein, déjà. Bon.
Pour accueillir le Paris Saint-Germain.
Oui.
Ah, donc bon. ça avance quand même. Ça avance.
Non, je ne vais pas vous dire que tout est ouvert, mais c'est bien avancé. Voilà, et on a fait quelques sondages un peu. Bon, on ne sent pas, mais il y a toujours, plutôt des surprises, hein, à chaque fois qu'on lance un projet. Comprenez qu'ils veulent grandir, c'est clair. Ils veulent se mettre au niveau international. Voilà, il y a des choix à faire. Et puis, bon, après, il faut mettre les méthodes, les bons acteurs, les moyens. Ils les ont, et nous aussi, bon, et sont bien.
Il nous reste très peu de temps. Vous avez le même optimisme que Jean-Michel Fourgous ?
Enfin, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est ce qui paraissait de la science-fiction il y a un an, est aujourd'hui un sujet qui est sur la table, qui a des avantages, des inconvénients aussi, qui est pris en otage politiquement, mais c'est un sujet qui mérite d'être traité, d'être analysé en tout cas.
Pour vous. Les plus grands clubs n'ont pas changé de stade, des clubs au sens d'institution. J'entends, mais les clubs dont on a parlé, je suis désolé, mais le Real Madrid n'a pas changé de stade, il l'a remodelé. Le Barça n'a pas changé de stade, il l'a remodelé. L'Athletic Club de Bilbao, pareil. Liverpool en Angleterre, pareil. Quand on a une identité qu'on a autant massacrée que celle du Paris Saint-Germain, parce qu'on globalement, que ce soit le logo, le maillot, le centre d'entraînement, parce qu'il était lié à Saint-Germain.
Liverpool est à plus de 20 minutes du centre. Hein.
Oui, mais le stade a toujours été là, donc culturellement, les gens y sont prêts. C'est pas, il y a une question d'accessibilité, une question également d'histoire. Mmh. Et parfois, quand on quitte le stade, il faut bien réfléchir à est-ce qu'on va se couper de ses clients historiques. S'ils sont en capacité d'avoir des nouveaux clients, j'ai envie de leur dire, ils auront raison.
Bon, l'exemple de l'OL, en tout cas, n'est pas vraiment un exemple...
Mais il n'est pas accessible. Il est très, très difficilement accessible. Donc, ça explique aussi beaucoup de choses. Mais moi, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, il est évident que si on quitte le parc pour des broutilles... Parce qu'à date, il est quand même encore exploitable. Ce n'est pas un stade en ruine. Il faut quand même poser le constat.
C'est difficile aussi de construire des places supplémentaires au Parc des Princes.
La configuration serait totalement différente, à tel point que le stade serait orienté différemment. Donc c'est pour ça que c'est des travaux aussi coûteux, avec en dessous le périphérique, vous l'avez rappelé. Donc, en fait, je pense que c'est quand même sain et de leur responsabilité d'anticiper le sujet et de réfléchir au sujet maintenant. Parce qu'effectivement, le Parc des Princes est encore exploitable.
Il y a des réunions d'ailleurs au Paris Saint-Germain, ça s'active quand même.
Ah, et puis ils font bosser, bosser des architectes depuis un moment, ils ont étudié le dossier du Stade de France, c'est pas récent. C'est pour ça qu'en fait, le sujet entre la mairie de Paris et le club doit exister depuis un petit moment, beaucoup plus qu'on ne peut l'imaginer aujourd'hui autour de ce plateau.
Et on verra donc la décision qui sera prise in fine. Merci beaucoup à vous trois d'avoir participé à ce nouveau numéro d'Île-de-France Politique, donc sur l'avenir du Paris Saint-Germain, avec ou sans le parc, c'est ce que nous verrons. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit avec un nouveau journal sur BFM Paris, Île-de-France.